La dernière fois, nous avons essayé de regarder ensemble. nous allons essayer de comprendre cette fameuse distinction qu'Aristote a posée, que saint Thomas a repris, qui a disparu avec Descartes, et qui, je crois, est importante à bien saisir. Le problème des degrés de vie. Ce problème des degrés de vie était posé avant Aristote, chez les Pythagoriciens, comme un problème moral. Chez les Pythagoriciens, on voit les différents degrés de l'épanouissement d'une vie. Aspects. Une réflexion d'ordre philosophie théorétique, c'est-à-dire une philosophie qui mène à la contemplation, qui est la recherche de la vérité pour elle-même. Alors que dans la philosophie pratique, on ne recherche pas la vérité pour elle-même, mais on recherche la vérité en vue de l'action, en vue de l'action humaine, morale, personnelle, ou de la vie, d'une action morale politique. Au niveau proprement spéculatif, il découvre donc l'âme comme source radicale de toute ma vie. Mais il a constaté la très grande variété de mes diverses opérations vitales. Nous-mêmes, indépendamment d'Aristote, constater cette très grande variété de nos opérations vitales. Donc, faisons un petit inventaire très simple, un examen de conscience philosophique qui consiste tout simplement à voir que mes opérations vitales sont très variées, très diverses. Et cependant, elle enlève tout de moi. Tous les jours, je me réveille. Aristote insiste beaucoup sur cette expérience pénible de se réveiller. Le fait de passer du sommeil à se réveiller, c'est vrai, c'est une expérience du vivant que nous faisons tous les jours et quelquefois plusieurs fois par jour. Quelquefois, quand on assiste à des cours qui ne sont pas très drôles, on s'endort. Puis on se réveille après. Alors, on fait cette expérience quelquefois, plusieurs fois par jour. Le passage du sommeil à être éveillé. Puis, si on est chrétien, on essaiera de prier un peu. C'est encore une activité vitale. C'est d'être vivant pour prier, même pour le philosophe. Aristote reconnaît, avec les néoplatoniciens ensuite, que prier est une activité de vie humaine. L'homme est un animal capable de prier, tandis que les autres animaux le sont beaucoup moins. Puis, vous prenez votre petit déjeuner. Votre petit déjeuner est encore une activité vitale et humaine. Puis vous vous mettez au travail. Ça prend beaucoup de place, au travail intellectuel, manuel, un travail d'ouvrier, un travail de réflexion, peu importe, c'est le travail. Puis vous recommencez souvent à manger, et ainsi de suite, au fond. Et puis vous respirez. Si vous avez un peu de temps, vous méditez, vous réfléchissez. Si vous aimez la philosophie, vous commencez à réfléchir. Parce que c'est la réflexion qui nous conduit à la philosophie. Et quand on commence à réfléchir, si on veut aller jusqu'au bout, on aboutira à la philosophie. La philosophie, c'est pas tellement pratique. C'est avant tout pour réfléchir et permettre, grâce à cette réflexion, d'avoir une activité humaine plus lucide, une activité humaine qui va plus loin. Puis si vous êtes un homme politique, vous faites de la politique, c'est encore autre chose. Vous pouvez aussi jouer, vous détendre. Vos activités humaines sont extrêmement multiples et très diverses. Je crois que ça, c'est la première constatation qu'on doit faire. faut pas trop s'arrêter là-dessus. Mais on peut se poser la question. Je me réveille le matin, est-ce que c'est bien moi qui me suis endormi hier? Entre deux, il y a quelquefois des cauchemars. Quelquefois, j'ai très très bien dormi, ça m'a semblé très rapide. Mais c'est bien moi.
Des petits pains frais. Il faut sentir ça.
qu'elle s'est faite était une boulangerie, ce qui était normal à 4h du matin. Alors, restant là, ayant eu assez froid pendant la nuit, je me suis mis là et puis je me suis mis à humecter cette odeur délicieuse. Le boulanger m'a vu. Comme j'étais en habit dominicain, il m'a regardé, il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Je dis « J'attends le jour. » C'était bien moi, c'était ça que j'attendais, j'attendais le jour. J'attendais le petit matin. Il dit « Vous n'avez rien mangé ?» Je dis « Oh, je sens l'odeur de vos petits pains, c'est délicieux, c'est merveilleux. » En disant ça, j'attendais bien qu'il aille un peu plus loin. Mais je mettais lui-même en appétit. Il me dit « Ah oui, ça sent très bon, c'est très agréable, le petit déjeuner comme ça le matin. »
Une très belle figure. Ce
parce que vous la regardez, vous l'abîmez. Quand vous regardez une magnifique rose, ce n'est pas parce que vous la regardez qu'elle va se faner. Non, sauf si vous avez le mauvais œil. Les gens qui croisent sont de mauvais œil. Alors à ce moment-là, leur œil projette quelque chose. Platon disait ça. Il disait que l'œil projette du feu. C'est très curieux, ça, la question du mauvais œil. Ça, c'est un petit peu la superstition. On sait très bien, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant à regarder. Vous dites le mauvais œil. Le mauvais toucher. On comprend qu'on peut transmettre certaines maladies par le toucher. La lèpre, ça peut se transmettre par les blessures. C'est curieux. Normalement, le contact purement de pure connaissance ne modifie pas ce qu'on connaît. Vous voyez, s'il y a une blessure, ce n'est déjà plus la connaissance, c'est autre chose. C'est un contact vital, plus profond. C'est le sang. Et le sang fait partie de la vie végétative. Ce n'est pas la connaissance. Je peux donc arriver à distinguer deux aspects dans mes activités vitales liées à mon corps. Des activités vitales qui sont de vie végétative, des activités vitales qui impliquent la connaissance, qui impliquent l'affectivité, les passions. C'est une activité vitale, la passion. Oh, quand vous vous mettez en colère, ça peut modifier votre regard, ça peut modifier votre visage. Ça peut même provoquer certaines attaques. Il y a une répercussion sur le corps. Ça, c'est sûr. Quand vous êtes très en colère, ça fait des tresses. Ça, c'est sûr. Donc, il y a une répercussion. Mais il y a quand même une distinction entre les deux. Vous voyez, c'est comme le toucher. Quand vous touchez un objet qui n'est pas très dangereux, ça va. Mais si vous touchez un objet dangereux, prise de contact électrique. Par le toucher, vous pouvez être électrocuté. Donc le toucher peut très bien engendrer quelque chose qui secoue toute ma vie végétative et qui me conduit à la mort. C'est comme une blessure dans l'ordre du toucher. Vous voyez, il y a un contact très fort entre les deux. Il y a un passage entre les deux. Mais je peux quand même distinguer ce qui relève de la vie végétative proprement dite et puis ce qui relève de la connaissance sensible, de la connaissance et de l'affectivité. Et puis il y a une troisième dimension, la pensée, ce que j'appelle la pensée. Ce que j'appelle ma vie spirituelle. Mais attention, quand je dis vie spirituelle, je ne veux pas dire ma vie divine. Ma vie spirituelle, c'est penser. L'activité artistique, c'est une activité spirituelle. Aimer quelqu'un, l'aimer pour lui-même, et non pas avec le désir de l'accaparer, de le posséder. Aimer l'autre pour lui-même, c'est un amour spirituel. Je peux donc arriver, et je crois ça important, dans notre examen de conscience philosophique, arriver à distinguer en moi trois niveaux de vie. La vie végétative. Elle n'est jamais à l'état abstrait à ma vie végétative, c'est bien évident. Quand je prends mon petit déjeuner le matin, mais je goûte Donc là, vous dépassez votre vie végétative pour goûter. Ce café n'est pas bon du tout. Le soleil est tourné, ça. Vous voyez bien qu'à côté de la vie végétative qui se nourrit, il y a la connaissance. Mais je peux distinguer quand même les deux domaines. Nous arriverons progressivement à bien les distinguer. Parce que c'est quand même important ici. Je fais qu'une approche. Vie végétative. Vie sensible. Vie intellectuelle. Et ma vie humaine implique les trois. Dans ma vie humaine, les trois sont toujours très liés. Mais ma vie humaine peut prendre des orientations différentes. Et quand l'élément spirituel domine, je suis orienté vers la contemplation. Quand l'élément sensible, affectif, passionnel domine, je sais qu'à ce moment-là, il faut faire des efforts pour maintenir en moi une vie morale. Parce que la vie morale est d'abord spirituelle et elle va s'enraciner dans ma vie affective, passionnelle. Et quand ma vie végétative l'emporte, alors c'est la volupté. Je vois très bien comment le soubassement de ces trois grandes orientations de vie humaine, vie contemplative, vie morale, vie délectable, se fonde sur ces trois degrés de vie. C'est pas la même chose, hein. Ne faites pas un parallélisme univoque, mais comprenez que ces distinctions des trois degrés de vie fondent radicalement au niveau de ma vie, le point de vue des trois orientations. C'est important de comprendre ça, parce que ça fait comprendre que la vie est le fondement de toute ma vie morale. N'opposons pas vie et morale, comme on le fait de temps en temps. C'est pas vrai du tout. La morale, c'est un genre de vie. Et c'est l'orientation de ma vie. Évidemment, si je formalise la morale, elle ne sera plus vitale du tout. Mais si je suis un être normal, qui essaie d'être humain, l'aspect moral, c'est l'émergence du spirituel sur le sensible. C'est la victoire du spirituel sur le sensible. C'est donc une vie complexe, la vie morale. Ça implique des éléments spirituels et des éléments sensibles. C'est toujours. C'est pour ça que c'est une lutte perpétuelle. Vous ne pouvez pas mener une vie morale en vous tournant les pouces. C'est impossible. Vous menez une vie morale, du moins, qui essaie d'être morale, toujours dans la lutte. Et jusqu'au bout. Évidemment, grâce aux vertus, on pourra dépasser. Mais ce sera toujours une lutte. Ce sera la victoire de la vie spirituelle sur le sensible, sur le passionnel, sur l'affectivité sensible, l'affectivité passionnelle. Et la vie morale s'enracinera jusque dans la vie végétative. Parce que dans la vie morale, il faut essayer autant que possible de ne pas être gourmand. Et la gourmandise, on sait très bien où elle naît. Elle naît à partir de l'alimentation. Vous êtes gourmand en face d'aliments que vous aimez bien. Et puis d'autres aliments que vous rejetez. Il y a des vents, certaines personnes gourmandes ou gourmets qui ne vivent que de certains aliments. Les autres, on les laisse tomber. On peut très bien faire ça, on voit très bien comment la gourmandise naît. Eh bien, la vie morale ira jusque-là, donc vous voyez bien. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que ma vie morale
philosophie spéculative, les trois degrés de vie, la vie végétative, la vie sensible, la vie spirituelle, a une répercussion sur toute ma vie morale. La manière dont je regarde la vie spirituelle, ma vie sensible et ma vie végétative fera nécessairement que j'aurai un regard différent par rapport aux activités morales. Je n'insiste pas là-dessus, mais c'est pour vous montrer que cette distinction des trois degrés de vie est quelque chose de capital. Je ne peux pas connaître ma vie humaine si je ne fais pas cette analyse. Et cette analyse, je la fais progressivement. Parce que ces trois degrés se tiennent, ils ne sont pas séparés. Ils ne sont pas séparés. Même dans ma vie spirituelle, ma vie sensible est toujours présente. Ma vie imaginative est toujours présente. Et dans ma vie sensible, ma vie végétative est présente. Ça, c'est sûr. Ils ne sont pas séparés. Ces trois degrés de vie sont unis dans l'exercice vital. Mais ils se distinguent. Et c'est maintenant que nous allons essayer de distinguer ces trois degrés de vie. Après avoir fait cette approche, on va regarder la vie végétative, si vous voulez, puisque c'est la vie, celle qui pèse le plus. C'est ma vie végétative. C'est ma vie végétative qui est à l'origine de toutes les luttes. C'est très curieux. De toutes les divisions. C'est curieux. Même des êtres très spirituels. Je vous disais tout à l'heure, l'espace vital qui est à l'origine d'une quantité de guerre. Eh bien, l'espace vital, ça se comprend au niveau de la vie végétative. Il faut avoir suffisamment de terrain cultivé pour pouvoir vivre. Autrement, je ne pourrais pas vivre. Et tout dépend de là. Il faut quand même vivre. Primum vivere. C'est bien évident. Et le philosophe, dans son réalisme, reconnaît que la vie végétative, c'est dans notre vie humaine, celle qui enveloppe. Et je dis bien celle qui enveloppe tout. Je ne dis pas du tout celle qui finalise. Attention, la vie végétative ne finalise pas ma vie humaine. Il faudra la dépasser. Mais elle est comme l'enveloppement. Nous avons tous commencé à vivre une vie végétative quand nous étions dans le sein maternel. Vous n'avez pas beaucoup de souvenirs. Pourquoi pas, du moins. De temps en temps, on voudrait bien retrouver les souvenirs de cette vie souterraine qui était tellement paisible, dans laquelle on n'avait aucune responsabilité. C'est merveilleux. C'est pour ça que les psychanalystes disent qu'il y a une nostalgie à retourner dans le sein maternel. Le complexe océanique, c'est assez bien dit du reste, le complexe océanique, on veut retourner dans le sein maternel. Ne plus avoir aucune responsabilité. Vous voyez, ce nirvana maternel. On voudrait retourner là, se confondre avec un être qui nous porte, avec un être qui nous nourrit, avec un être qui travaille pour nous. C'est merveilleux de commencer cette vie humaine comme ça. C'est idyllique. Mais le petit gosse, le tout petit enfant, le petit fœtus ne sait pas ça. Mais quand il est sorti du sein maternel et qu'il commence à voir que c'est pas commode de devoir travailler, il y a un petit complexe de retourner dans ce paradis perdu. C'est vrai, c'est un paradis perdu, c'est sûr. La mère, elle a porté pour nous. La mère a lutté pour nous. Et nous, inconsciemment ou absolument inconsciemment, on a vécu ce temps idyllique, extraordinaire, merveilleux. On a complètement oublié, du moins moi, C'est mon point de départ de ma vie humaine, il faut que j'aille l'oublier. C'est l'enracinement profond. Vous voyez, on l'a trop oublié. Dans une philosophie idéaliste. Dans une philosophie idéaliste, on ne regarde jamais plus la vie végétative. Regardez comment Descartes regarde la vie végétative. C'est extraordinaire. C'est un mécanisme. C'est tout. On remonte à manivelle, c'est tout. Si c'était une vie mécanique, vous voyez, on devrait se nourrir de pilules. Tous les jours, trois petites pilules, ce serait suffisant. J'espère qu'on n'arrivera pas à ça, parce que quand même, la vie végétative, on doit en avoir certaines expériences. Ça fait partie de notre vie. On a commencé par une vie végétative à l'état pur. C'est extraordinaire. À l'état pur. Porté par notre mère. Heureux âge, on était sûr d'être porté par sa mère. Et peut-être que maintenant, on essaie de faire qu'il y ait autre chose. C'est effrayant, ça je ne suis pas du tout d'accord. Point de vue philosophique. Mais c'est intéressant de voir ça. C'est très intéressant de voir que ce premier moment de notre vie. On ne nous a pas demandé notre avis. Ce premier moment de notre vie a été une vie végétative à l'état pur. C'est impossible qu'il n'y ait pas une influence sur le reste de notre vie. Impossible. 9 mois dans cet état-là. C'est quand même quelque chose. C'est fondamental. Et donc si c'est fondamental, ça doit conditionner pas mal de choses dans notre vie. Notre vie végétative a commencé donc à l'état pur. Puis, on est né, on est sorti de ce milieu merveilleux. On en est sorti, il fallait en sortir. Il était naturel d'en sortir. Si on était resté trop longtemps, on serait étouffé. C'est une nécessité naturelle. Ça peut occasionner certains traumatismes, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que c'est une nécessité naturelle de passer de ce premier état à l'état de celui qui commence à goûter ce milieu dans lequel nous sommes. Le petit être commence à respirer la première respiration. Il commence à avoir son autonomie biologique. Ou une autonomie encore très précaire, puisqu'il ne marche pas, puisqu'il a besoin d'être porté. Et tout ça, c'est la vie végétative. Il a besoin d'être nourri. Il ne peut pas se nourrir lui-même. Vous savez bien les constatations qu'on a faites, qui sont du reste extrêmement intéressantes à noter, que c'est l'être humain qui naît dans l'état le plus pauvre qui soit. Prenez les animaux. Les animaux, parallèles à l'homme, ils sont un éveil à la vie végétative. Mais beaucoup plus rapide. On a fait des études psychologiques, pas très drôles, heureusement que j'ai pas été le cobaye de ça. On a fait des études psychologiques en mettant des petits de guenons à côté des petits d'hommes. Alors on a vu que le petit de l'homme était battu pendant 7 mois, je crois, ou 8 mois. Puis à partir du 8e mois, il est rattrapé. Rien ne sert de courir vite. Il faut partir à temps. Et c'est le cas de dire, il était beaucoup plus. Et s'il était laissé là, sur le bord de la route, il mourrait. Il a absolument besoin qu'un autre le porte. Il a absolument besoin qu'un autre vienne pour le soutenir, le porter. Alors on dira tout de suite, c'est pour donner un rôle très important aux parents. C'est très vrai, mais c'est peut-être pas la seule raison. Ça, c'est un petit peu moral. C'est très très beau. C'est pour que la mère puisse être très proche de lui. C'est merveilleux. Mais pourquoi ce tout petit enfant né dans une telle fragilité alors que le petit animal, lui, arrive à voir très vite? Je chercherai une raison pour le petit enfant. Comment se fait-il ça? Comment se fait-il qu'à cet éveil si lent? Sans doute parce qu'il doit aller beaucoup plus loin. La vie végétative donc va s'éveiller progressivement, avec une certaine indépendance, la marche. C'est pour la vie végétative, hein, pour trouver son aliment. Et puis la vie végétative va progresser, se nourrir, respirer, se nourrir, croître. Et quand la croissance est suffisamment grande, la vie végétative devient source de vie. Tout le problème de la procréation. Le vivant devient source de vie dans l'ordre de la vie végétative. C'est très étonnant, ça. Les Grecs disaient toujours, et ça reste vrai, seul le vivant parfait engendre. Et c'est vrai, seul le vivant parfait engendre. Parce qu'il s'agit de devenir source de vie. Et la devenir source de vie, mais c'est extraordinaire, ça. De faire que la vie, il y a, je ne sais pas, mettez 20 ans, soit source d'un petit être. aujourd'hui, avec les progrès de la science et de la technique, on garde quelquefois des êtres vivants dans un coma où il n'y a plus de la vie végétative. Et on dit, vous savez bien, c'est comme une plante. C'est pas très flatteur, mais c'est comme une plante. Donc il n'y a plus que la vie végétative. L'être humain est lié à la vie végétative au point de départ et risque toujours au terme d'être lié à la vie végétative. On souhaite ne pas rester trop longtemps comme une plante, parce que c'est pas très drôle d'être arrosé tous les matins, n'est-ce pas, d'avoir un petit peu de soleil pour pousser et puis de faire que progressivement la vie disparaît. C'est vrai, c'est pas très drôle, mais ça fait partie de la vie végétative, ça. Hein, le coma fait partie de la vie végétative. Ce moment de la vie végétative qui enveloppe tout. C'est extraordinaire, ça. Ouais. Quand, philosophiquement, quand on essaie de comprendre un tout petit peu ce que c'est que notre vie végétative et de comprendre que notre vie végétative, elle nous enveloppe. Alors, je disais tout à l'heure, et je finis sur cette remarque, je finis, ouais, 10 minutes d'arrêt, parce qu'au bout d'une heure de philosophie, on a envie de parler. Alors, je m'arrêterai 10 minutes, puis on reprendra, ne vous inquiétez pas. Je disais tout à l'heure, l'idéalisme, un idéalisme comme Descartes, fait que le philosophe méprise la vie végétative. Le mépris de la vie végétative n'est jamais vrai. Ça entraîne des maladies, on sait très bien. Quelqu'un qui ne veut plus manger parce qu'il veut pas grossir. C'est très bien de ne pas grossir pour ne pas être un petit tonneau. Ça, c'est, je comprends, ça, c'est évident. Mais ne pas grossir d'une façon telle qu'on devient comme un. Uniquement une espèce d'arbre où il n'y a plus que le tronc. Ça entraîne des maladies, le mépris. Et le mépris de la vie végétative entraîne, j'en suis sûr, quelque chose de beaucoup plus terrible au niveau psychologique. Ça entraîne des repliements, des charges d'inconscience. Ça entraîne fatalement, ça ne peut pas être autrement, quelque chose qui fait que on ne peut plus avoir la même limpidité. Alors, aimer trop son corps, vivre trop au niveau végétatif, ça entraîne d'autres inconvénients. Ça, c'est sûr. Ça entraîne d'autres inconvénients. Il faut donc que, philosophiquement, nous ayons un sens exact du corps et de notre vie végétative. Pourquoi notre corps? Alors, poser des questions qui sont extrêmement importantes. Et comment user notre corps? Parce qu'avec la vie végétative, vous usez de votre corps. Et vous nourrissez votre corps. Alors, on voit très bien que ce domaine de la vie végétative, qui est quelque chose qui m'appartient, ce domaine de la vie végétative, je n'ai pas le droit de mépriser. Je n'ai pas le droit de l'exalter. Je dois avoir vis-à-vis. Et ceci, je ne parle pas de morale. Hein. Je suis simplement au niveau, je dirais tout simplement, de l'intelligence humaine qui comprend que la vie végétative ne peut pas me finaliser. Je ne parle pas de la morale en disant il faut pas être gourmand, faut pas être gourmet, faut pas, ainsi de suite. C'est pas ça. Il y a quelque chose de plus radical que ça. C'est uniquement au niveau de la vie. La vie végétative apparaît comme ce qui enveloppe la science. marginalité de la vie végétative, je dis bien au niveau de la vie végétative, sera la procréation. Mais je ne dis pas que c'est une finalité absolue pour l'homme. Ça, on le verra. Mais au niveau de la vie végétative, il faut le reconnaître que la finalité, la seule finalité, c'est la procréation. Pourquoi ? Parce que c'est devenir source de vie d'un être semblable à ce que nous sommes pour permettre à l'espèce humaine de continuer et de toucher quelque chose d'éternel. Alors, je m'arrête 10 minutes maintenant et puis je reprendrai après si vous avez des questions.